Guy de Maupassant. La femme de Paul. Le restaurant Grillon, ce phalanstère des canotiers, se vidait lentement. C'était devant la porte un tumulte de cris, d'appels, et les grands gaillards en maillot blanc gesticulaient avec des avirons sur l'épaule. Les femmes, en claire toilette de printemps, embarquaient avec précaution dans les yoles et, s'asseyant à la barre, disposaient leurs robes, tandis que le maître de l'établissement, un fort garçon à barbe rousse, d'une vigueur célèbre, donnait la main aux belles petites en maintenant d'aplomb les frêles embarcations. Les rameurs prenaient place à leur tour, bras nus et la poitrine bombée, posant pour la galerie, une galerie composée de bourgeois endimanchés, d'ouvriers et de soldats accoudés sur la balustrade du pont et très attentifs à ce spectacle. Les bateaux, un à un, se détachaient du ponton, les tireurs se penchaient en avant, puis se renversaient d'un mouvement régulier. Et sous l'impulsion des longs rames recourbés, les yoles rapides glissaient sur la rivière, s'éloignaient, diminuant, disparaissaient enfin sous l'autre pont, celui du chemin de fer en descendant vers la Grenouillère. Un couple seul était resté. Le jeune homme, presque imberbe encore, mince, le visage pâle, tenait par la taille sa maîtresse, une petite brune maigre avec des allures de sauterelle. Et ils se regardaient parfois au fond des yeux. Le patron cria.
« Allons, monsieur Paul, dépêchez-vous !»
Et ils s'approchèrent. De tous les clients de la maison, monsieur Paul était le plus aimé et le plus respecté. Il payait bien et régulièrement, tandis que les autres se faisaient longtemps tirer l'oreille, à moins qu'ils ne disparussent, insolvables. Puis, il constituait pour l'établissement une sorte de réclame vivante, car son père était sénateur, et quand un étranger demandait « Qui est-ce donc ce petit-là qui en tient si fort pour sa donzelle ?» Quelque habitué répondait à mi-voix, d'un air important et mystérieux « C'est pas le baron, vous savez, le fils du sénateur. » Et l'autre, invariablement, ne pouvait s'empêcher de dire « Le pauvre diable, il n'est pas à moitié pincé. » La mère Grillon, une brave femme, entendue au commerce, appelait le jeune homme et sa compagne ses deux tourtereaux, et semblait tout attendrie par cet amour avantageux pour sa maison. Le couple s'en venait à petits pas, l'aïeule Madeleine était prête, mais au moment de monter dedans, ils s'embrassèrent, ce qui fit rire le public amassé sur le pont, et M. Paul, prenant ses rames, partit aussi pour la Grenouillère. Quand ils arrivèrent, il allait être 3 heures, et le grand café flottant regorgeait de monde. L'immense radeau, couvert d'un toit goudronné que supportent des colonnes de bois, est relié à l'île charmante de Croissy par 2 passerelles, dont l'une pénètre au milieu de cet établissement aquatique, tandis que l'autre en fait communiquer l'extrémité avec un îlot minuscule planté d'un arbre et surnommé le pot à fleurs, et de là gagne la terre auprès du bureau des bains. Monsieur Paul attacha son embarcation le long de l'établissement. Il escalada la balustrade du café, puis, prenant les mains de sa maîtresse, il l'enleva, et tous deux s'assirent au bout d'une table, face à face. De l'autre côté du fleuve, sur le chemin de halage, une longue file d'équipages s'alignait. Les fiacres alternaient avec de fines voitures de gommeux. Les uns, lourds, au ventre énorme, écrasant les ressorts, attelés d'une rosse au cou tombant, aux genoux cassés, les autres, sveltes et lancés sur des roues minces, avec des chevaux aux jambes grêles étendues, aux coups dressés, aux morts neigeux d'écume, tandis que le cocher, gourmé dans sa livrée, sa tête raide dans son grand col, demeurait les reins inflexibles et le fouet sur un genou. La berge était couverte de gens qui s'en venaient par famille ou par bande, ou deux par deux, ou solitaires. Ils arrachaient des brins d'herbe, descendaient jusqu'à l'eau, remontaient sur le chemin, et tous, arrivés au même endroit, s'arrêtaient, attendant le passeur. Le lourd bachot allait sans fin d'une rive à l'autre, déchargeant dans l'île ses voyageurs. Le bras de la rivière, qu'on appelle le bras mort, sur lequel donne ce ponton à consommation, semblait dormir tant le courant était faible. Des flottes de yoles, de skiffs, de périssoirs, de pots de scaphe, de gigs, d'embarcations de toutes formes et de toute nature, filaient sur l'onde immobile, se croisant, se mêlant, s'abordant, s'arrêtant brusquement d'une secousse des bras, pour s'élancer de nouveau sous une brusque tension des muscles, et glisser vivement comme de longs poissons jaunes ou rouges. Il en arrivait d'autres, sans cesse, les unes de Chatou, en amont, les autres, de Bougival, en aval. Et des rires allaient sur l'eau d'une barque à l'autre, des appels, des interpellations ou des engueulades. Les canotiers exposaient à l'ardeur du jour la chair brunie et bosselée de leurs biceps, et, pareils à des fleurs étranges, à des fleurs qui nageraient, les ombrelles de soie rouges, vertes, bleues ou jaunes des barreuses s'épanouissaient à l'arrière des canots. Un soleil de juillet flambait au milieu du ciel. L'air semblait plein d'une gaieté brûlante. Aucun frisson de brise ne remuait les feuilles des saules et des peupliers. Là-bas, en face, l'inévitable mont Valérien étageait dans la lumière crue ses talus fortifiés, tandis qu'à droite, l'adorable coteau de Louveciennes, tournant avec le fleuve, s'arrondissait en demi-cercle, laissant passer par place, à travers la verdure puissante et sombre des grands jardins, les blanches murailles des maisons de campagne. Aux abords de la Grenouillère, une foule de promeneurs circulait sous les arbres géants qui font de ce coin d'île le plus délicieux parc du monde. Des femmes, des filles aux cheveux jaunes, aux seins démesurément rebondis, à la croupe exagérée, au teint plâtré de fard, aux yeux charbonnés, aux lèvres sanguinolentes, lacées, sanglées en des robes extravagantes, traînaient sur les frégazons le mauvais goût criard de leur toilette. Tandis qu'à côté d'elles, des jeunes gens posaient en leur accoutrement de gravure de mode, avec des gants clairs, des bottes vernies, des badines grosses comme un fil, et des monocles ponctuant la niaiserie de leurs sourires. L'île est étranglée juste à la Grenouillère, et sur l'autre bord, où un bac aussi fonctionne amenant sans cesse les gens de Croissy, le bras rapide, plein de tourbillons, de remous, d'écume, roule avec des allures de torrent. Un détachement de pontonniers en uniforme d'artilleur est campé sur cette berge, et les soldats, assis en ligne sur une longue poutre, regardaient couler l'eau. Dans l'établissement flottant, c'était une cohue rieuse et hurlante. Les tables de bois où les consommations répandues faisaient de minces ruisseaux poisseux étaient couvertes de verres à moitié vides et entourées de gens à moitié gris. Toute cette foule criait, chantait, braillait. Les hommes, le chapeau en arrière, la face rougie, avec des yeux luisants d'ivrogne, s'agitaient en vociférant par un besoin de tapage naturel aux brutes. Les femmes, cherchant une proie pour le soir, se faisaient payer à boire en attendant. Et dans l'espace libre entre les tables dominait le public ordinaire du lieu, un bataillon de canotiers, chahuteurs avec leurs compagnes en courtes jupes de flanelle. Un d'eux se démenait au piano et semblait jouer des pieds et des mains. Quatre couples bondissaient un quadrille, et des jeunes gens les regardaient, élégants, corrects, qui auraient semblé comme il faut si la tare, malgré tout, n'eût apparu. Car on sent là, à pleine narine, toute l'écume du monde, toute la crapulerie distinguée, toute la moisissure de la société parisienne, mélange de calicots, de cabotins, d'infimes journalistes, de gentilshommes en curatelle, de boursicotiers véreux, de noceurs tarés, de vieux viveurs pourris, cohue interlope de tous les êtres suspects, à moitié connus, à moitié perdus, à moitié salués, à moitié déshonorés, filous, fripons, procureurs de femmes, chevaliers d'industrie à la lurdigne, à l'air matamor qui semble dire « Le premier qui me traite de gredin, je le crève ». Ce lieu sut la bêtise, pue la canaillerie et la galanterie de bazar. Mâles et femelles s'y valent. Il y flotte une odeur d'amour et l'on s'y bat pour un oui ou pour un non, afin de soutenir des réputations vermoulues que les coups d'épée et les balles de pistolet ne font que crever davantage. Quelques habitants des environs y passent en curieux chaque dimanche. Quelques jeunes gens, très jeunes, y apparaissent chaque année, apprenant à vivre. Des promeneurs, flânant, s'y montrent. Quelques naïfs s'y égarent. C'est, avec raison, nommé la grenouillère. À côté du radeau couvert où l'on boit, et tout près du pot à fleurs, on se baigne. Celles des femmes, dont les rondeurs sont suffisantes, viennent là montrer à nu leur étalage et faire le client. Les autres, dédaigneuses, bien qu'amplifiées par le coton, étayées de ressorts, redressées par-ci, modifiées par-là, regardent d'un air méprisant barboter leurs sœurs. Sur une petite plateforme, les nageurs se pressent pour piquer leur tête. Ils sont longs comme des échalas, ronds comme des citrouilles, noueux comme des branches d'olivier, courbés en avant ou rejetés en arrière par l'ampleur du ventre et, invariablement laids, ils sautent dans l'eau qui rejaillit jusque sur les buveurs du café. Malgré les arbres immenses penchés sur la maison flottante et malgré le voisinage de l'eau, une chaleur suffocante emplissait ce lieu. Les émanations des liqueurs répandues se mêlaient à l'odeur des corps et à celle des parfums violents dont la peau des marchandes d'amour est pénétrée et qui s'évaporait dans cette fournaise. Mais sous toutes ces senteurs diverses flottait un arôme léger de poudre de riz qui parfois disparaissait, reparaissait, qu'on retrouvait toujours comme si quelque main cachée eût secoué dans l'air une houppe invisible. Le spectacle était sur le fleuve, où le va-et-vient incessant des barques tirait les yeux. Les canotières s'étalaient dans leurs fauteuils en face de leurs mâles aux forts poignets, et elles considéraient avec mépris les quêteuses de dîner rôdant par l'île. Quelquefois, quand une équipe lancée passait à toute vitesse, les amis descendus à terre poussaient des cris, et tout le public, subitement pris de folie, se mettait à hurler. Au coude de la rivière, vers Chatou, se montraient sans cesse des barques nouvelles. Elles approchaient, grandissaient, et à mesure qu'on reconnaissait les visages, d'autres vociférations partaient. Un canot, couvert d'une tente et monté par quatre femmes, descendait lentement le courant. Celle qui ramait était petite, maigre, fanée, vêtue d'un costume de mousse, avec ses cheveux relevés sous un chapeau ciré. En face d'elle, une grosse blonde, habillée en homme, avec un veston de flanelle blanche, se tenait couchée sur le dos au fond du bateau, les jambes en l'air sur le banc des deux côtés de la rameuse, et elle fumait une cigarette, tandis qu'à chaque effort des avirons, sa poitrine et son ventre frémissaient, ballottés par la secousse. Tout à l'arrière, sous la tente, deux belles filles, grandes et minces, l'une brune et l'autre blonde, se tenaient par la taille en regardant sans cesse leur compagne. Un cri partit de la grenouillère.
« V'là les bosses !»
Et tout à coup, ce fut une clameur furieuse. Une bousculade effrayante eut lieu. Les verres tombés ont monté sur les tables. Tous, dans un délire de bruit, vociféraient
« Les bosses ! Les bosses ! Les bosses !»
Le cri roulait, devenait indistinct, ne formait plus qu'une sorte de hurlement effroyable, puis, soudain, il semblait s'élancer de nouveau, monter par l'espace, couvrir la plaine, emplir le feuillage épais des grands arbres, s'étendre aux lointains coteaux, aller jusqu'au soleil. La rameuse, devant cette ovation, s'était arrêtée tranquillement. La grosse blonde, étendue au fond du canot, tourna la tête d'un air nonchalant, se soulevant sur les coudes, et les deux belles filles, à l'arrière, se mirent à rire en saluant la foule. Alors la vocifération redoubla, faisant trembler l'établissement flottant. Les hommes levaient leurs chapeaux, les femmes agitaient leurs mouchoirs, et toutes les voix, aiguës ou graves, criaient ensemble
« Lesbos !»
On eût dit que ce peuple, ce ramassis de corrompus, saluait un chef, comme ces escadres qui tirent le canon quand un amiral passe sur leur front. La flotte nombreuse des barques acclamait aussi le canot des femmes, qui repartit de son allure somnolente pour aborder un peu plus loin. Monsieur Paul, au contraire des autres, avait tiré une clé de sa poche, et de toute sa force, il sifflait. Sa maîtresse, nerveuse, pâlie encore, lui tenait le bras pour le faire taire et elle le regardait cette fois avec une rage dans les yeux. Mais lui semblait exaspéré, comme soulevé par une jalousie d'homme, par une fureur profonde, instinctive, désordonnée. Il balbutia, les lèvres tremblantes d'indignation. C'est honteux. On devrait les noyer comme des chiennes avec une pierre au cou. Et Madeleine, brusquement, s'emporta. Sa petite voix aigre devint sifflante, et elle parlait avec volubilité comme pour plaider sa propre cause. Est-ce que ça te regarde, toi? Sont-elles pas libres de faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles ne doivent rien à personne? Fiche-nous la paix avec tes manières, et mêle-toi de tes affaires. Mais il lui coupa la parole. C'est la police que ça regarde, et je les ferai flanquer à Saint-Lazare, moi. Elle eut un soubresaut. Toi? Oui, moi. Et en attendant, je te défends de leur parler, tu entends? Je te le défends. Alors elle haussa les épaules et calmée tout à coup. Mon petit, je ferai ce qui me plaira. Si tu n'es pas content, file, et tout de suite. Je ne suis pas ta femme, n'est-ce pas? Alors tais-toi. Il ne répondit pas et ils restèrent face à face, avec la bouche crispée et la respiration rapide. À l'autre bout du grand café de bois, les quatre femmes faisaient leur entrée. Les deux costumées en hommes marchaient devant, l'une maigre, pareille à un garçonnet vieillot avec des teintes jaunes sur les tempes, l'autre, emplissant de sa graisse ses vêtements de flanelle blanche, bombant de sa croupe le large pantalon, se balançant comme une oie grasse, ayant les cuisses énormes et les genoux rentrés. Leurs deux amis les suivaient et la foule des canotiers venait leur serrer les mains. Elles avaient loué toutes les quatre un petit chalet au bord de l'eau et elles vivaient là comme auraient vécu deux ménages. Leur vie c'était public, officiel, patent. On en parlait comme d'une chose naturelle qui les rendait presque sympathiques et l'on chuchotait tout bas des histoires étranges, des drames nés de furieuses jalousies féminines et des visites secrètes de femmes connues, d'actrices, à la petite maison du bord de l'eau. Un voisin, révolté de ces bruits scandaleux, avait prévenu la gendarmerie et le brigadier, suivi d'un homme, était venu faire une enquête. La mission était délicate. On ne pouvait, en somme, rien reprocher à ces femmes qui ne se livraient point à la prostitution. Le brigadier, fort perplexe, ignorant même à peu près la nature des délits soupçonnés, avait interrogé à l'aventure et fait un rapport monumental concluant à l'innocence. On en avait ri jusqu'à Saint-Germain. Elles traversaient à petits pas, comme des reines, l'établissement de la Grenouillère, et elles semblaient fières de leur célébrité, heureuses des regards fixés sur elles, supérieures à cette foule, à cette tourbe, à cette plèbe. Madeleine et son amant les regardaient venir, et dans l'œil de la fille, une flamme s'allumait. Lorsque les deux premières furent au bout de la table, Madeleine cria « Pauline !» La grosse se retourna, s'arrêta, tenant toujours le bras de son moussaillon femelle. « Tiens, Madeleine, viens donc me parler, ma chérie !» Paul crispa ses doigts sur le poignet de sa maîtresse, mais elle lui dit d'un tel air « Tu sais, mon petit, tu peux filer !» qu'il se tut et resta seul. Alors elles causèrent tout bas, debout, toutes les trois. Des gaietés heureuses passaient sur leurs lèvres. Elles parlaient vite, et Pauline, par instant, regardait Paul à la dérobée avec un sourire narquois et méchant. À la fin, n'y tenant plus, il se leva soudain et fut près d'elle d'un élan, tremblant de tous ses membres. Il saisit Madeleine par les épaules. « Viens, je le veux, » dit-il. « Je t'ai défendu de parler à ces gueuses. » Mais Pauline éleva la voix et se mit à l'engueuler avec son répertoire de poissarde. On riait alentour, on s'approchait, on se haussait sur le bout des pieds afin de mieux voir, et lui restait interdit sous cette pluie d'injures fongeuses. Il lui semblait que les mots sortant de cette bouche et tombant sur lui le salissaient comme des ordures, et, devant le scandale qui commençait, il recula, retourna sur ses pas et s'accouda sur la balustrade vers le fleuve, le dos tourné aux trois femmes victorieuses. Il resta là, regardant l'eau, et parfois, avec un geste rapide, comme s'il l'eût arraché, il enlevait d'un doigt nerveux une larme formée au coin de son œil. c'est qu'il l'aimait éperdument, sans savoir pourquoi, malgré ses instincts délicats, malgré sa raison, malgré sa volonté même. Il était tombé dans cet amour comme on tombe dans un trou bourbeux. D'une nature attendrie et fine, il avait rêvé des liaisons exquises, idéales et passionnées. Et voilà que ce petit criquet de femme, bête comme toutes les filles, d'une bêtise exaspérante, pas jolie même, maigre et rageuse, l'avait pris, captivé, possédé des pieds à la tête, corps et âme. Il subissait cet ensorcellement féminin, mystérieux et tout-puissant, cette force inconnue, cette domination prodigieuse, venue on ne sait d'où, du démon de la chair, et qui jette l'homme le plus sensé aux pieds d'une fille quelconque, sans que rien en elle explique son pouvoir fatal et souverain. Et là, derrière son dos, il sentait qu'une chose infâme s'apprêtait. Des rires lui entraient au cœur. Que faire? Il le savait bien, mais ne le pouvait pas. Il regardait fixement sur la berge en face, un pêcheur à la ligne immobile. Soudain, le bonhomme enleva brusquement du fleuve un petit poisson d'argent qui frétillait au bout du fil. Puis il essaya de retirer son hameçon, le tordit, le tourna, mais en vain. Alors, pris d'impatience, il se mit à tirer, et tout le gosier saignant de la bête sortit avec un paquet d'entrailles. Et Paul frémit, déchiré lui-même jusqu'au cœur. Il lui sembla que cet hameçon, c'était son amour, et que s'il fallait l'arracher, tout ce qu'il avait dans la poitrine sortirait ainsi, au bout d'un fer recourbé, accroché au fond de lui, et dont Madeleine tenait le fil. Une main se posa sur son épaule. Il eut un sursaut, se tourna. Sa maîtresse était à son côté. Ils ne se parlèrent pas, et elle s'accouda comme lui à la balustrade, les yeux fixés sur la rivière. Il cherchait ce qu'il devait dire, et ne trouvait rien. Il ne parvenait même pas à démêler ce qui se passait en lui. Tout ce qu'il éprouvait, c'était une joie de la sentir là, près de lui, revenue, et une lâcheté honteuse, un besoin de pardonner tout, de tout permettre, pourvu qu'elle ne le quittât point. Enfin, au bout de quelques minutes, il lui demanda d'une voix très douce « Veux-tu que nous nous en allions ? Il ferait meilleur dans le bateau. » Elle répondit « Oui, mon chat. » Et il l'aida à descendre dans la yole, la soutenant, lui serrant les mains, tout attendrie, avec quelques larmes encore dans les yeux. Alors elle le regarda en souriant, et ils s'embrassèrent de nouveau. Ils remontèrent le fleuve tout doucement, longeant la rive plantée de sol, couverte d'herbes, baignée et tranquille dans la tiédeur de l'après-midi. Lorsqu'ils furent revenus au restaurant Grillon, il était à peine 6 heures. Alors, laissant leur yole, ils partirent à pied dans l'île vers Beson, à travers les prairies, le long des hauts peupliers qui bordent le fleuve. Les grands foins, prêts à être fauchés, étaient remplis de fleurs. Le soleil qui baissait étalait dessus une nappe de lumière rousse, et dans la chaleur adoucie du jour finissant, les flottantes exhalaisons de l'herbe se mêlaient aux humides senteurs du fleuve, imprégnaient l'air d'une langueur tendre, d'un bonheur léger, comme d'une vapeur de bien-être. Une molle défaillance venait au cœur, et une espèce de communion avec cette splendeur calme du soir, avec ce vague et mystérieux frisson de vie épandue, avec cette poésie pénétrante, mélancolique, qui semblait sortir des plantes, des choses, s'épanouir, révéler au sens en cette heure douce et recueillie. Il sentait tout cela, lui, mais elle ne le comprenait pas, elle. Ils marchaient côte à côte, et soudain, lasse de se taire, elle chanta. Elle chanta de sa voix aigrelette et fausse quelque chose qui courait les rues, un air traînant dans les mémoires qui déchira brusquement la profonde et sereine harmonie du soir. Alors il la regarda, et il sentit entre eux un infranchissable abîme. Elle battait les herbes de son ombrelle, la tête un peu bissée, contemplant ses pieds et chantant, filant des sons, essayant des roulades, osant des trilles. Son petit front étroit, qu'il aimait tant, était donc vide. Vide. Il n'y avait là-dedans que cette musique de serinette, et les pensées qui s'y formaient par hasard étaient pareilles à cette musique. Elle ne comprenait rien de lui. Ils étaient plus séparés que s'ils ne vivaient pas ensemble. Ses baisers n'allaient donc jamais plus loin que les lèvres. Alors elle releva les yeux vers lui et sourit encore. Il fut remué jusqu'aux moelles, et, ouvrant les bras dans un redoublement d'amour, il l'étreignit passionnément. Comme il chiffonnait sa robe, elle finit par se dégager en murmurant par compensation « Va, je t'aime bien, mon chat !» Mais il la saisit par la taille et, pris de folie, l'entraîna en courant et il l'embrassait sur la joue, sur la tempe, sur le cou, tout en sautant d'allégresse. Ils s'abattirent, haletants, au pied d'un buisson incendié par les rayons du soleil couchant. Et, avant d'avoir repris haleine, ils s'unirent, sans qu'elle comprît son exaltation. Ils revenaient en se tenant les deux mains, quand soudain, à travers les arbres, ils aperçurent sur la rivière le canot monté par les quatre femmes. La grosse Pauline aussi les vit, car elle se redressa, en voyant à Madeleine des baisers, puis elle cria
« À ce soir !»
Madeleine répondit
« À ce soir !»
Paul crut sentir soudain son cœur enveloppé de glace. Et ils rentrèrent pour dîner. Ils s'installèrent sous une des tonnelles au bord de l'eau et se mirent à manger en silence. Quand la nuit fut venue, on apporta une bougie, enfermée dans un globe de verre, qui les éclairait d'une lueur faible et vacillante, et l'on entendait à tout moment les explosions de cris des canotiers dans la grande salle du premier. Vers le dessert, Paul, prenant tendrement la main de Madeleine, lui dit « Je me sens très fatigué, ma mignonne. Si tu veux, nous nous coucherons de bonne heure. » Mais elle avait compris la ruse, et elle lui lança ce regard énigmatique, ce regard à perfidie qui apparaît si vite au fond de l'œil de la femme. Puis, après avoir réfléchi, elle répondit « Tu te coucheras si tu veux. Moi, j'ai promis d'aller au bal de la grenouillère. » Il eut un sourire lamentable, un de ces sourires dont on voit les plus horribles souffrances, mais il répondit d'un ton caressant et navré « Si tu étais bien gentil, nous resterions tous les deux. » Elle fit « non » de la tête, sans ouvrir la bouche. Il insista. « Je t'en prie, ma bichette. » Alors elle rompit brusquement. « Tu sais ce que je t'ai dit. Si tu n'es pas content, la porte est ouverte. On ne te retient pas. Quant à moi, j'ai promis, j'irai. » Il posa ses deux coudes sur la table, enferma son front dans ses mains et resta là, rêvant douloureusement. Les canotiers redescendirent en braillant toujours. Ils repartaient dans leur yole pour le bal de la grenouillère. Madeleine dit à Paul « Si tu ne viens pas, décide-toi, je demanderai à un de ces messieurs de me conduire. » Paul se leva. « Allons, » murmura-t-il. Et ils partirent. La nuit était noire, pleine d'astres, parcourue par une haleine embrasée, par un souffle pesant, chargé d'ardeur, de fermentation, de germes vifs qui, mêlés à la brise, l'alentissaient. Elle promenait sur les visages une caresse chaude, faisait respirer plus vite, haletait un peu, tant elle semblait épaissie et lourde. Les yoles se mettaient en route, portant à l'avant une lanterne vénitienne. On ne distinguait point les embarcations, mais seulement ces petits falots de couleur, rapides et dansants, pareils à des lucioles en délire, et des voix couraient dans l'ombre de tous côtés. La yole des deux jeunes gens glissait doucement. Parfois, quand un bateau lancé passait près d'eux, ils apercevaient soudain le dos blanc du canotier éclairé par sa lanterne. Lorsqu'ils eurent tourné le coude de la rivière, la grenouillère leur apparut dans le lointain. L'établissement en fête était orné de girandoles, de guirlandes en veilleuses de couleurs, de grappes de lumière. Sur la Seine circulaient lentement quelques gros bachots représentant des dômes, des pyramides, des monuments compliqués en feu de toutes nuances. Des festons enflammés traînaient jusqu'à l'eau, et quelquefois un falot rouge ou bleu, au bout d'une immense canne à pêche invisible, semblait une grosse étoile balancée. Toute cette illumination répandait une lueur alentour du café, éclairait de bas en haut les grands arbres de la berge dont le tronc se détachait en gris pâle et les feuilles en vert laiteux sur le noir profond des champs et du ciel. L'orchestre, composé de 5 artistes de banlieue, jetait au loin sa musique de bastringue, maigre et sautillante, qui fit de nouveau chanter Madeleine. Elle voulut tout de suite entrer. Paul désirait auparavant faire un tour dans l'île, mais il dut céder. L'assistance s'était épurée. Les canotiers, presque seuls, restaient avec quelques bourgeois clairsemés et quelques jeunes gens flanqués de filles. Le directeur et organisateur de ce cancan, majestueux dans un habit noir, fatigué, promenait en tous sens sa tête ravagée de vieux marchands de plaisirs publics à bon marché. La grosse Pauline et ses compagnes n'étaient pas là, et Paul respira. On dansait. Les couples face à face cabriolaient éperdument, jetaient leurs jambes en l'air jusqu'au nez des vis-à-vis. Les femelles, désarticulées des cuisses, bondissaient dans un enveloppement de jupes révélant leurs dessous. Leurs pieds s'élevaient au-dessus de leur tête avec une facilité surprenante, et elles balançaient leur ventre, frétillaient de la croupe, secouaient leurs seins, répandant autour d'elles une senteur énergique de femmes en sueur. Les mâles s'accroupissaient comme des crapauds avec des gestes obscènes, se contorsionnaient, grimaçant et hideux, faisaient la roue sur les mains ou bien, s'efforçant d'être drôles, esquissaient des manières avec une grâce ridicule. Une grosse bonne et 2 garçons servaient les consommations. Ce café-bateau, couvert seulement d'un toit, n'ayant aucune cloison qui le séparât du dehors, la danse échevelée s'étalait en face de la nuit pacifique et du firmament poudré d'astres. Tout à coup, le mont Valérien, là-bas, en face, sembla s'éclairer comme si un incendie se fût allumé derrière. La lueur s'étendit, s'accentua, envahissant peu à peu le ciel, décrivant un grand cercle lumineux d'une lumière pâle et blanche. Puis quelque chose de rouge apparut, grandit, d'un rouge ardent comme un métal sur l'enclume. Cela se développait lentement en rond, semblait sortir de la terre, et la lune, se détachant bientôt de l'horizon, monta doucement dans l'espace. À mesure qu'elle s'élevait, sa nuance pourpre s'atténuait, devenait jaune, d'un jaune clair, éclatant, et l'astre paraissait diminuer à mesure qu'il s'éloignait. Paul le regardait depuis longtemps, perdu dans cette contemplation, oubliant sa maîtresse. Quand il se retourna, elle avait disparu. Il la chercha, mais ne la trouva pas. Il parcourait les tables d'un œil anxieux, allant et revenant sans cesse, interrogeant l'un et l'autre. Personne ne l'avait vu. Il errait ainsi, martyrisé d'inquiétude, quand un des garçons lui dit « C'est Madame Madeleine que vous cherchez ? Elle vient de partir tout à l'heure en compagnie de Madame Pauline. » Et au même moment, Paul apercevait, debout à l'autre extrémité du café, le mousse et les 2 belles filles, toutes 3 liées par la taille, et qui le guettaient en chuchotant. Il comprit, et comme un fou s'élança dans l'île. Il courut d'abord vers Chatou, mais devant la plaine, il retourna sur ses pas. Alors il se mit à fouiller l'épaisseur des taillis, à vagabonder éperdument, s'arrêtant parfois pour écouter. Les crapauds, par tout l'horizon, lançaient leurs notes métalliques et courtes. Vers Bougival, un oiseau inconnu modulait quelques sons qui arrivaient affaiblis par la distance. Sur les larges gazons, la lune versait une molle clarté comme une poussière de ouate. Elle pénétrait les feuillages, faisait couler sa lumière sur l'écorce argentée des peupliers, criblait de sa pluie brillante les sommets frémissants des grands arbres. La grisante poésie de cette soirée d'été entrait dans Paul, malgré lui, traversait son angoisse affolée, remuait son cœur avec une ironie féroce, développant jusqu'à la rage en son âme douce et contemplative ses besoins d'idéale tendresse, d'épanchement passionné dans le sein d'une femme adorée et fidèle. Il fut contraint de s'arrêter, étranglé par des sanglots précipités, déchirants. La crise passée, il repartit. Soudain, il reçut comme un coup de couteau. On s'embrassait là, derrière ce buisson. Il y courut. C'était un couple d'amoureux dont les deux silhouettes s'éloignèrent vivement à son approche, enlacés, unis dans un baiser sans fin. Il n'osait pas appeler, sachant bien qu'elle ne répondrait point, et il avait aussi une peur affreuse de les découvrir tout à coup. Les ritournelles des quadrilles avec les solos déchirants du piston, les rires faux de la flûte, les rages aigus du violon lui tiraillaient le cœur, exaspérant sa souffrance. La musique, enragée et boitillante, courait sous les arbres, tantôt affaiblie, tantôt grossie dans un souffle passager de brise. Tout à coup, il se dit qu'elle était revenue peut-être. Oui, elle était revenue, pourquoi pas? Il avait perdu la tête sans raison, stupidement emporté par ses terreurs, par les soupçons désordonnés qui l'envahissaient depuis quelque temps. Et saisi par une de ces accalmies singulières qui traversent parfois les plus grands désespoirs, il retourna vers le bal. D'un coup d'œil, il parcourut la salle. Elle n'était pas là. Il fit le tour des tables et brusquement se trouva de nouveau face à face avec les trois femmes. Il avait apparemment une figure désespérée et drôle, car toutes trois ensemble éclatèrent de gaieté. Il se sauva, repartit dans l'île, se rua à travers les taillis, haletant. Puis il écouta de nouveau. Il écouta longtemps, car ses oreilles bourdonnaient. Mais enfin il crut entendre, un peu plus loin, un petit rire perçant qu'il connaissait bien, et il avança tout doucement, rampant, écartant les branches, la poitrine tellement secouée par son cœur qu'il ne pouvait respirer. Deux voix murmuraient des paroles qu'il n'entendait pas encore, puis elles se turent. Alors il eut une envie immense de fuir, de ne pas voir, de ne pas savoir, de se sauver pour toujours, loin de cette passion furieuse qui le ravageait. Il allait retourner à Chatou, prendre le train, et ne reviendrait plus, ne la reverrait plus jamais. Mais son image brusquement l'envahit, et il l'aperçut dans sa pensée quand elle s'éveillait au matin, dans leur lit tiède, se pressait câline contre lui, jetant ses bras à son cou, avec ses cheveux répandus, un peu mêlés sur le front, avec ses yeux fermés encore, et ses lèvres ouvertes pour le premier baiser. Et le souvenir subit de cette caresse matinale l'emplit d'un regret frénétique et d'un désir forcené. On parlait de nouveau, et il s'approcha, courbé en deux. Puis un léger cri courut sous les branches, tout près de lui, un cri, un de ces cris d'amour qu'il avait appris à connaître aux heures éperdues de leur tendresse. Il avançait encore, toujours, comme malgré lui, attiré invinciblement sans avoir conscience de rien. Et il les vit. Oh, si c'eût été un homme, l'autre, mais cela, cela! Il se sentait enchaîné par leur infamie même, et il restait là, anéanti, bouleversé, comme s'il eût découvert tout à coup un cadavre cher et mutilé, un crime contre nature, monstrueux, une immonde profanation. Alors, dans un éclair de pensée involontaire, il songea au petit poisson dont il avait vu arracher les entrailles. Mais Madeleine murmura « Pauline !» du même ton passionné qu'elle disait « Paul !» Et il fut traversé d'une telle douleur qu'il s'enfuit de toutes ses forces. Il heurta deux arbres, tomba sur une racine, repartit, et se trouva soudain devant le fleuve, devant le bras rapide éclairé par la lune. Le courant torrentueux faisait de grands tourbillons où se jouait la lumière. La berge haute dominait l'eau comme une falaise, laissant à son pied une large bande obscure où les remous s'entendaient dans l'ombre. Sur l'autre rive, les maisons de campagne de Croissy s'étageaient en pleine clarté. Paul vit tout cela comme dans un songe, comme à travers un souvenir. Il ne songeait à rien, ne comprenait rien, et toutes les choses, son existence même, lui apparaissaient vaguement, lointaines, oubliées. Fini. Le fleuve était là. Comprit-il ce qu'il faisait? Voulut-il mourir? Il était fou. Il se retourna cependant vers l'île, vers elle, et dans l'air calme de la nuit où dansaient toujours les refrains affaiblis et obstinés du bastringue, il lança d'une voix désespérée, suraiguë, surhumaine, un effroyable cri.
Madeleine!
Son appel déchirant traversa le large silence du ciel, couru par tout l'horizon. Puis, d'un bond formidable, d'un bond de bête, il sauta dans la rivière. L'eau jaillit, se referma, et de la place où il avait disparu, une succession de grands cercles partit, élargissant jusqu'à l'autre berge leurs ondulations brillantes. Les deux femmes avaient entendu. Madeleine se dressa. « C'est Paul !» Un soupçon surgit en son âme. « Il s'est noyé !» dit-elle. Et elle s'élança vers la rive où la grosse Pauline la rejoignit. Un lourd bachot, monté par deux hommes, tournait et retournait sur place. Un des bateliers ramait, l'autre enfonçait dans l'eau un grand bâton et semblait chercher quelque chose. Pauline cria.
« Que faites-vous? Qu'y a-t-il ? »
Une voix inconnue répondit.
« C'est un homme qui vient de se noyer !»
Les deux femmes, serrées l'une contre l'autre, à garde, suivaient les évolutions de la barque. La musique de la grenouillère, folâtrée toujours au loin, semblait accompagner en cadence les mouvements des sombres pêcheurs. Et la rivière qui cachait maintenant un cadavre, tournoyait, illuminée. Les recherches se prolongeaient. L'attente horrible faisait grelotter Madeleine. Enfin, après une demi-heure au moins, un des hommes annonça
« Je le tiens !»
Et il fit remonter sa longue gaffe doucement, tout doucement. Puis quelque chose de gros apparut à la surface de l'eau. L'autre marinier quitta ses rames et tous deux, unissant leurs forces, allant sur la masse inerte, la firent culbuter dans leur bateau. Ensuite ils gagnèrent la terre en cherchant une place éclairée et basse. Au moment où ils abordaient, les femmes arrivaient aussi. Dès qu'elle le vit, Madeleine recula d'horreur. Sous la lumière de la lune, il semblait vert déjà, avec sa bouche, ses yeux, son nez, ses habits pleins de vases. Ses doigts fermes et raidis étaient affreux. Une espèce d'enduit noirâtre et liquide couvrait tout son corps. Sa figure paraissait enflée, et de ses cheveux collés par le limon, une eau sale coulait sans cesse. Les deux hommes l'examinèrent. « Tu le connais ?» dit l'un. L'autre, le passeur de Croissy, hésitait. « Oui, il me semble bien que j'ai vu cette tête-là. Mais tu sais, comme ça, on ne reconnaît pas très bien. » Puis soudain, « Mais c'est Monsieur Paul !»«
Qui ça, Monsieur Paul ?» demanda son camarade. Le premier reprit.
« Mais Monsieur Paul Baron, le fils du sénateur, ce petit qui était si amoureux !»
L'autre ajouta philosophiquement. « Eh bien, il a fini de rigoler maintenant. C'est dommage tout de même quand on est riche. »
Madeleine sanglotait, tombait par terre. Pauline s'approcha du corps et demanda.
« Est-ce qu'il est bien mort ? Tout à fait ?»
Les hommes haussèrent les épaules.
« Oh, après ce temps-là, pour sûr !»
Puis l'un d'eux interrogea.
« C'est chez Grillon qu'il logeait ?»«
Oui, reprit l'autre.
Faut le reconduire, il y aura de la braise. »
Ils remontèrent dans leur bateau et repartirent, s'éloignant lentement à cause du courant rapide. Et longtemps encore, après qu'on ne les vit plus de la place où les femmes étaient restées, on entendit tomber dans l'eau les coups réguliers des avirons. Alors Pauline prit dans ses bras la pauvre Madeleine, éplorée, la câlina, l'embrassa longtemps, la consola.
« Que veux-tu? Ce n'est point ta faute, n'est-ce pas? On ne peut pourtant pas empêcher les hommes de faire des bêtises. Il l'a voulu. Tant pis pour lui, après tout. »
Puis, la relevant, « Allons, ma chérie, viens t'en coucher à la maison. Tu ne peux pas rentrer chez Grillon ce soir. » Elle l'embrassa de nouveau.
« Va, nous te guérirons, » dit-elle.
Madeleine se releva et pleurant toujours, mais avec des sanglots affaiblis, la tête sur l'épaule de Pauline, comme réfugiée dans une tendresse plus intime et plus sûre, plus familière et plus confiante, elle partit à tout petits pas.